الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 20 من شهر رجب عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 55 من قراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله. Nous sommes le 9 mai 2015 et aujourd'hui, inshallah, nous entrons dans le 55e cours et de ce livre sur la vie du prophète صلى الله عليه وسلم de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Il nous reste à peu près 3 cours pour conclure ce livre par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous informe d'ores et déjà que le prochain livre qui sera étudié, si Allah le veut, nous le permet, sera Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans les chapitres relatif aux spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avons vu, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, les a classifiés en leur donnant le même ordre que l'on retrouve dans les ouvrages de jurisprudence, en commençant par Tahara, la purification, ensuite la prière, et ainsi de suite avec les piliers de l'islam. Et actuellement, nous sommes dans le chapitre sur Al-At'ima, les nourritures. Nous nous sommes arrêtés sur la question citée par Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'interdiction de manger accoudé ou bien était-ce simplement quelque chose de réprouvé? La question suivante, mas'ala. Qala Abu al-Abbas ibn al-Qas wa nuhiya an طعام الفجأة وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم أورد حديث أبي داود من رواية درست ابن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. Question suivante. Vous allez voir qu'en réalité, comme a dit Cheikh Abdel Razak, il n'y a pas de preuve. Donc on a expliqué qu'à chaque fois qu'Ibn Kathir dit mas'ala, donc il va citer un point, une question relative au sujet. Il le cite ici pour nous dire que si les faits sont avérés, alors ceci fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si les faits ne sont pas affirmés ou avérés, ce point qui est cité sous cette mas'ala, sous cette question, ne fait pas partie de ces spécificités. Et il s'agit ici de ce qu'on appelle ta'am ul-faj'a, on appelle aussi cela ta'am ul-fuja'a. C'est le repas auquel on est invité de façon spontanée. C'est-à-dire que ce n'est pas une invitation qui est prévue. Je t'invite à manger demain, après-demain. Ta'am ul-faj'a, c'est quelqu'un qui soudainement apporte un plat et t'invite à y manger. Sous cette question, un des tenants de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est le dénommé Abu al-Abbas ibn al-Qas, rahimahullah, a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit de répondre à ce repas spontané. Par contre, s'il était préparé et donc invité au préalable, il pouvait répondre sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pris pour preuve cette histoire dans laquelle le compagnon Abu Darda radiyallahu anhu a soudainement apporté un plat et il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, mange ton plat. Et lui ne l'a pas mangé, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit que ceci est une spécificité au prophète alayhi salatu wa sallam. Or, en réalité, les savants du hadith disent que ce récit n'a pas de chaîne de transmission qui permet de prouver son authenticité. Ainsi, le récit n'est pas à prendre en compte. Et l'imam al-Bayhaqi rahimahullah a dit « La ahfadhu an-nahya an ta'am al-faj'ati min wajhin yathbut ». C'est-à-dire qu'il ne mémorise rien en parlant de texte concernant l'interdiction que le prophète aurait de manger un plat qui lui est offert spontanément, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont cité une variante ou un hadith selon Abdullah ibn Umar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui est invité et ne répond pas, man du'iya wa lam yujib, faqad asa Allah wa rasoula, a désobéi à Allah et son messager. Et cette partie du hadith est authentique car on la retrouve chez l'imam al-Bukhari et Muslim. Et le reste, qui est leur preuve de l'interdiction de manger le repas qu'on offre spontanément, de manière imprévue, est faible. Et on retrouve d'ailleurs une preuve dans le recueil de récits de l'imam Abu Daoud, rahimahullah, sous le chapitre Bab Ta'amul Fuja'a. Chapitre, le repas spontané. Dedans, on y voit qu'un compagnon a amené subitement des dattes qu'il a offertes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète les a acceptées et mangées. Donc non seulement il n'y a pas de preuve authentique, mais en plus, une preuve authentique prouve le contraire. Donc le résumé de cette question, c'est que ce n'est pas une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais plus lire en français, car on est à la fin du livre, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui sont des tafri'at, qui sont des questions qui découlent d'autres questions, qui découlent d'autres questions, qui sont peut-être difficiles à comprendre, et qui ont été jugées par l'imam Ibn Kathir lui-même, comme il dit qu'on n'a pas besoin de citer ces questions-là, il n'y a pas d'utilité à citer ces questions-là. مسألة قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت أي ابن كثير ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. La question suivante, les tenants de cette école, donc Ibn Kathir rahimahullah, fait partie de cette même école de l'imam Shafi'i rahimahullah. Et ici, dans les chapitres, il cite tous les avis des tenants de son école. Mais le fait qu'il les cite ne veut pas dire qu'il y adhère, car pour la plupart et très souvent on voit à la fin qu'il dit que cette question n'est pas authentique, mais il le cite pour des raisons que vous allez peut-être entendre inshallah ta'ala par la suite. Et donc ils disent que celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait de la nourriture avait l'obligation de lui donner, même s'il était dans le besoin. Même s'il était dans le besoin et n'avait que justement cette nourriture. Car c'est pour mettre en pratique l'ordre d'Allah Azza wa Jal, de porter la considération au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de reconnaître la place qu'il occupe chez Allah et dans le cœur des musulmans. Et ils ont pris pour preuve un verset qui a une portée générale, comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq, « Fiha dalalatun kathira ». Il y a dans ce verset beaucoup d'implications. Ce verset implique beaucoup de choses et beaucoup de sens. Il a une portée vaste. Ce verset est le verset 6 de Sourate Al-Ahzab et la traduction est la suivante. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Cheikh Abd al-Razzaq a dit que ce verset indique beaucoup de choses, parmi lesquelles le fait que nous devons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos propres personnes, et beaucoup d'autres choses, parmi lesquelles ce point cité sous ce chapitre. Si le prophète demande aux compagnons radiyallahu anhum de leur offrir un repas, alors que ces derniers n'ont en leur possession que ce repas, ils doivent lui donner, car le prophète a plus de droits qu'eux-mêmes en ont. Et Ibn Kathir rahimahullah dit que ce texte ressemble aussi au hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'un d'entre vous n'aura la foi complète que quand il m'aimera plus que son enfant, son père et l'ensemble des gens. » Et donc ceci implique que si l'individu aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que son père, son enfant, plus que l'ensemble des gens, que si le prophète lui demande de lui offrir un repas, il le donne. Mas'ala. وروى البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا لا حمى إلا لله ورسوله قال بعض أصحابنا هو مختص به وقال بعضهم بل يجوز لغيره للمصلحة كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى عمر رضي الله عنه الشرف والربذة إلا أن ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال. Donc la question suivante, c'est ce que rapportait l'imam al-Bukhari. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: seul Allah et son messager sont en droit de réserver des domaines privés, ce qu'on appelle al-hima. Al-hima, qui est cité ici dans ce texte, c'est que lorsque le roi arrive dans une terre, il prend une partie de cette terre et il va la consacrer à quelque chose. Il délimite cette terre, il la garde et la consacre à quelque chose. Ibn Kathir a cité sous ce chapitre ce point-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que vous venez d'entendre: seul Allah et son messager sont en droit de se réserver des domaines privés, pour nous expliquer que c'est une spécificité. En réalité, vous allez voir qu'il y a des preuves que ceci n'est pas une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'arriver dans une terre et de réserver une partie de cette terre, par exemple, pour y placer les sadaqat, les aumônes, ou pour quoi que ce soit d'autre. C'est lui le gouverneur, il vient dans un endroit, il prend une terre, il lui met des limitations et il utilise cette terre pour quelque chose, pour une utilité. Dans ce hadith, on voit seul Allah et son messager sont en droit de le faire. Ibn Kathir a dit que certains tenants de son école prennent ce texte pour preuve, pour dire que c'est une spécificité, alors que d'autres ont dit « Bal yajuz li ghayrihi lil maslaha ». Ceci est permis à autrui, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si dans cela il y a un intérêt. Et il cite comme exemple l'histoire où Omar radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il était donc gouverneur, avait justement réservé une partie de la terre à un endroit qu'on appelle al-Rabdah. Donc ceci nous montre que ce n'est pas une spécificité et que donc l'empereur ou bien le gouverneur a le droit d'agir ainsi s'il y a un intérêt à le faire, de prendre une terre, de la réserver. Et le mot hima, c'est celui qu'on retrouve dans le hadith. Et d'ailleurs, ils ont pris ce hadith qui est cité dans les 40 de Nawawi rahimahullah, ala wa inna li kulli malikin hima. Chaque roi a un domaine, une terre. Elle est appelée hima avec des limites. Ils ont dit « Kulli malikin hima », chaque roi en a. Donc ce n'est pas une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y a un intérêt pour le gouverneur à le faire. « Illa annama hamahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yajuzu taghiruhu bihal » Et il faut retenir que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délimité, on ne peut pas le changer. قال رحمه الله ومن الهبة. Donc on va passer à un autre point ou un autre sujet ou un autre sous-chapitre qui traite des cadeaux, des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la conduite à avoir avec le cadeau, ce qu'on lui offre. قال مسألة وكان يقبل الهدية ويثيب عليها ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه بخلاف غيره من الأمراء فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول لأنها في حقهم كالرشا أي كالرشوة لوجود التهمة والله تعالى أعلم. Sous ce point, Ibn Kathir nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait le cadeau qu'on lui offre et dans un temps il rendait un équivalent en échange sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiallahu anha nous l'affirme. Pourquoi est-ce qu'il agissait ainsi et acceptait le cadeau, lui qui était gouverneur des musulmans? Non pas par le désir de prendre et recevoir ce cadeau, mais parce qu'il souhaitait attirer le cœur de celui qui lui offre ce cadeau. Il ne voulait pas le rejeter. Il voulait lui montrer qu'il l'acceptait pour ouvrir son cœur et l'amener à l'islam, à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Contrairement aux autres gouverneurs ou détenteurs de l'ordre, ou même juges, ou même les employés, qui eux n'ont pas le droit d'accepter un cadeau en échange de leur travail. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Hadaya al-ummal ghulul » c'est-à-dire les cadeaux offerts aux employés ou aux travailleurs sont comme ce qu'on appelle « al-ghulul » et « al-ghulul » c'est lorsqu'il y a une guerre entre les musulmans et les kuffars. Les musulmans ont vaincu l'ennemi, ils ont pris un butin. Le gouverneur va procéder au partage de ce butin. Si un musulman vient prendre une part avant même que ce butin ne soit partagé, il a commis ce péché majeur qui est appelé al-ghulul et qui est une catégorie du vol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'employé prend à cause de son travail, il prend un cadeau, c'est comme al-ghulul. Les savants ont dit car il y a une suspicion qui est la suivante. Si l'employé, le juge, celui qui a l'autorité, celui qui a un travail, prend un cadeau de quelqu'un à cause de son travail, il se peut que son cœur penche vers cet homme ou cet individu qui lui a offert ce cadeau, et donc qu'il transgresse des limites et les outrepasse en ne respectant pas les injonctions qu'il a reçues dans ce travail. Donc, il fait du favoritisme ou bien des exceptions pour ces personnes qui leur ont offert des cadeaux. Deuxièmement, il y a une choubha, il y a une ambiguïté, on peut le suspecter s'il accepte ce cadeau. On peut dire que un tel lui a donné un cadeau, c'est qu'il lui a fait une faveur ou autre. Pour ces raisons, il est interdit à l'employé de prendre un cadeau en échange de son travail. Et donc le musulman n'a pas le droit d'offrir un cadeau à un employé dans le cadre de son travail. Et ceci est interdit. Et donc le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, avait le droit de le prendre. Pourquoi? Parce que lui avait un but bien précis, c'était d'attirer le cœur de celui qui lui offre le cadeau, sallallahu alayhi wa sallam. Mas'ala. Qala Zakariya ibn Uday, haddathana ibn al-Mubarak, an al-Awza'i, an ibn Ata', qala Zakariya, أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى ما وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي تريد أن يعطيك أكثر فيما بعد. رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا، وهو أثر منقطع إن كان عمر بن عطاء وهو ابن وزار والراز وهو ضعيف جدا، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم وقد روى عن ابن عباس ولكن الأمر فيه مبهم. À la question suivante, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala cite le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la traduction est la suivante: tout ce que vous donnerez pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroîtra pas auprès d'Allah. Donc cette traduction, elle peut porter à comprendre le verset d'une certaine façon. Quant à l'explication donnée par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, elle est la suivante. Dans ce verset, Allah azza wa jal dit: wa ma ataytum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas, c'est-à-dire ce que vous offrez aux gens, vous leur offrez des cadeaux dans un but bien précis. C'est que eux, plus tard, dans une autre occasion, vous offrent un cadeau qui est bien plus important que celui que vous lui avez offert. Cheikh Abdul Razzaq dit, c'est comme quelqu'un qui est pauvre, il connaît quelqu'un qui est riche, il lui offre un cadeau qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. Et plus tard, le riche va lui offrir un autre cadeau, mais lui a les moyens de lui donner quelque chose qui a de la valeur. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas considéré comme riba, comme de l'intérêt. Fala yarbu indallah, la yu'tabaru riba indallah. Ceci n'est pas considéré chez Allah comme de l'intérêt. Et nous retrouvons le tafsir de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, dans lequel il dit que c'est riba al-halal, ce qu'on appelle riba qui est interdit, car en réalité ça n'entre pas dans le cadre de l'usure ou des intérêts qui sont interdits. Et ceci consiste à offrir à quelqu'un quelque chose en attendant que ce dernier nous offre quelque chose d'autre, sans lui demander, mais tu sais qu'il va te donner. Ils disent la ajra fihi wa la wizr, il n'y a ni péché ni récompense dans cet acte. Pourquoi est-ce qu'on le cite ici? Car ils disent que c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui n'a pas le droit de le faire. Nous avons le droit de le faire, mais lui n'a pas le droit sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris pour preuve la parole d'Allah azza wa jalla dans sourat Al-Mudaththir, la traduction, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Wa la tamnun tastakthir. Ensuite, le fait d'attribuer ce récit au rapporteur qui l'a relaté est discutable. Quoi qu'il en soit, c'est juste pour dire que c'est une question qui existe et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. Est-ce que c'est une spécificité ou non, en se basant sur le verset? Wallahu a'lam. Le chapitre suivant porte sur l'héritage. قال ومن الفرائض مسألة وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة كما أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده ولهما أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة فقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة فإن جهلهم قد سارت به الركبان. Le point suivant porte sur l'héritage et il est dit que, et d'ailleurs c'est rapporté de façon authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse rien en héritage. Donc lorsqu'il meurt, s'il laisse des choses, Ces choses ne doivent pas être héritées par ses descendants, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le rapportent l'imam al-Bukhari et Muslim, qu'après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha s'est rendue auprès de Abu Bakr radiyallahu anha pour lui réclamer l'héritage de son père qui venait de mourir. Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous autres, c'est-à-dire les prophètes, ne laissons rien en héritage. Ce que nous laissons sera une aumône. Les savants disent que Fatima radiyallahu anha n'a pas entendu ce hadith. Elle ne connaissait pas cet ordre et cette information. Donc elle est venue demander sa part en pensant qu'il n'y avait pas de spécificité par rapport à l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle s'est aperçue que finalement le prophète avait dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne laisserait rien en héritage. On le retrouve aussi dans le hadith de Abu Dharr, le long hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathu al-'ilm » Et les prophètes ne laissent pas en héritage de dirham ni de dinar, c'est-à-dire l'or et l'argent, mais ils laissent en héritage la science. « Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir » Et celui qui prend la science aura pris une grosse part de l'héritage. Donc, c'est une spécificité qui n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui concerne tous les prophètes. À leur mort, on n'hérite pas d'eux. Ce qu'ils laissent, c'est une sadaqa, c'est une aumône dont les musulmans tireront profit. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes héritiers ne partageront pas un seul dinar. Donc ici, il est explicatif et clair, sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait qu'il ne laisse rien en termes d'héritage. Et il dit, ce que j'ai laissé après la dépense pour mes épouses, elle sera une aumône. Et il dit, Ibn Kathir dit que nous ne devons pas prêter attention aux égarements des chiites, parmi Ar-Rafidah, qu'Allah Azza wa Jal les en les dise, dans leurs paroles qu'ils ont dit par rapport à l'héritage et à la fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et ainsi s'achève le chapitre concernant l'héritage. Le chapitre suivant porte sur les spécificités relatives aux règles du mariage. Kitab al-Nikah. Wa fihi ammatu ahkam al-tarsisat al-nabawiyya ala sahibiha afdal al-salat wa salam. ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون أخصر لها وأسهل تناولا. Premièrement, nous avons dit il y a quelques cours que les savants dans les ouvrages de jurisprudence très souvent citent les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce chapitre-là. Dans les chapitres sur An-Nikah, les chapitres sur les règles relatives au mariage. Pourquoi ? On a dit qu'ils agissent ainsi car la plupart des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont une relation avec les règles de mariage. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans les chapitres sur le mariage, ils ont cité d'abord les spécificités relatives au mariage. Et puisqu'ils sont en train de parler des spécificités, ils ont ajouté les autres. C'est pour ça que dans les ouvrages de fiqh, lorsque tu ouvres Kitab al-Nikah, le chapitre du mariage, tu vois ces spécificités du mariage et ensuite tu vois d'autres. Tu pourrais te dire, mais quels sont le rapport, ou quel est le rapport avec le mariage ? La réponse, c'est que étant donné qu'ils ont parlé de ce qui est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué et ont cité les autres spécificités. Et c'est pour ça qu'Ibn Kathir a dit qu'il se trouve, ou il s'y trouve, c'est-à-dire dans ce chapitre, la plupart des spécificités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va les citer selon l'ordre qui a déjà été cité plus loin, qui est le suivant. Premièrement, donc il y a quatre catégories. Premièrement, « Ma wajaba alayhi duna ghayr » ce qui lui est obligatoire à lui seul. Deuxièmement, ma haruma alayhi min al-nikah duna ghayri, ce qui lui est interdit à lui seul. Troisièmement, ma ubiha lahu min al-nikah duna ghayri, ce qui lui est permis dans le mariage à lui seul. Quatrièmement, ma khtussa bihi min al-fada'ili duna ghayri, les mérites qu'il a dans ce sujet-là en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. La première chose citée, mas'ala, amarahu Allah ta'ala bitakhyiri azwajihi, faqala ta'ala, ya ayyuhal nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata addunya wa zinataha, fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa addara al-akhirah, فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وأن الله أمره بذلك. واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا على وجهين، صحح النووي وغيره الوجوب. طيب. Donc le premier point concernant le mariage est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. La traduction, « Ô toi le prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai sans vous porter préjudice. Mais si c'est Allah et son messager que vous voulez, ainsi que la demeure dernière, alors sachez qu'Allah a préparé aux vertueuses parmi vous une immense récompense. » Dans ce verset, qu'on appelle Ayatul Takhyir, le verset qui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de laisser le choix à ses épouses entre rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et endurer dans la difficulté, dans la pauvreté, ou bien que le prophète les quitte, les laisse partir, et alors elles choisissent cette dunya et sa parure. Et bien entendu, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas hésité, elles ont toutes choisi de rester endurées avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le récit est rapporté par l'imam al-Bukhari muslim. Et d'ailleurs, pour montrer la soumission que le prophète avait devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première épouse à qui il s'est adressé, c'est Aisha radiallahu anha, son épouse préférée, celle qu'il aimait le plus. Allah azza wa jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses épouses que si c'est le bas monde et sa parure qu'elles veulent, alors il est prêt à les laisser partir. Il est prêt à les laisser partir et elles vivront dans ce bas monde. Par contre, si elles veulent endurer et préfèrent Allah et Dar al-Akhirah, la demeure dernière, alors elles endurent. Aïcha a été interrogée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a même dit que si elle veut, elle peut prendre du temps et aller consulter ses parents. Aïcha radiallahu anha lui a répondu qu'elle n'avait aucunement besoin de consulter ses parents dans ce sujet, puisque la décision est déjà prise d'avance. Elle reste avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres épouses ont agi de la même manière que Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, au début, donc après cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Ahzab, va s'adresser à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire de ne plus se marier avec d'autres femmes. Pourquoi ? Takriman li nisa'i nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour honorer les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont choisi Allah, son messager, wa dar al-akhirah, et la demeure dernière. Mais après sa mort, ou juste avant sa mort, Allah Azza wa Jal a abrogé cet ordre et lui a donné le droit d'épouser d'autres femmes en dehors de ces femmes-là qui étaient vivantes, à qui le prophète a donné ce choix. Et malgré cette permission qu'il a reçue de la part d'Allah Azza wa Jal, il n'en a pas épousé d'autres, sallallahu alayhi wa sallam, takriman lahun. وَلِتَكُونَ الْمِنَّةُ لَهُ عَلَيْهِمْ, pour les honorer et pour montrer vraiment le mérite qu'il a par rapport à elle. Car on aurait pu dire, il n'a pas épousé d'autres femmes car Allah lui a interdit de le faire. Non. Après, Allah a abrogé cet ordre, lui a permis, mais lui a choisi quand même d'honorer ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Et sous ce chapitre, Ibn Kathir a cité des sous-questions ou des questions qui découlent, mais il n'y a pas de... Le Cheikh Abd al-Razzaq a dit « Sabaqan ashara Ibn Kathir ila adam al-khawd fi hadhihi at-tafri'at allati la yatarattabu 'alayha 'amalun najis. » Il a dit, on a vu auparavant que parler de toutes ces questions-là, que je ne vais pas vous citer pour gagner du temps, il n'y a pas d'intérêt à le faire du fait que il ne découle pas de ces questions-là une action qui nous est demandée de mettre en pratique. Donc ici, il va y avoir beaucoup de questions de ce genre. Et Ibn Kathir a cet avis-là, qu'il ne faut pas citer ces questions-là. En vérité, il les a citées juste pour qu'on ne dise pas qu'il a oublié ces questions-là. Comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq. Al-Qismu Thani. La deuxième chose, la deuxième catégorie, ma haruma alayhi min al-nikah duna ghayrihi. Ce qui lui est interdit en termes de mariage ou de règles relatives au mariage en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها والله تعالى أعلم وقال بعضهم بل كان يفارقها تكرما ولكن قالوا الأولى ألا تذكر هذه المسائل. Donc ici il y a une question qui est citée, mais c'est pareil. Cheikh Abd al-Razzaq a dit que al-aula. Cheikh Abd al-Razzaq a dit que le meilleur était de ne pas citer ces questions car il ne découle pas de choses qui nous sont demandées de faire ou de mettre en pratique. Donc on va passer cette question inshallah ta'ala. مسألة هل كان يحل له نكاح الكتابية على وجهين صحح النووي الحرمة وهو اختيار ابن سريج والإصطخري وأبي حامد والمرو الله أكبر والمروذي نعم واستدل شيخ أبو نصر ابن الصباغ لهذا الوجه فقال لقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة وكأنه مال إليه ثم قال والخبر فلا حجة فيه لجواز أن من تزوج به منهن أسلمنا كلها تفريعات قلت وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه وإنما هو من كلام بعض الصحابة. Donc pareil ici, il va citer une question. Il va citer une question qui est la suivante. Le prophète a-t-il le droit, sallallahu alayhi wa sallam, d'épouser une femme des gens du livre, donc chrétienne ou juive? Il y a deux avis chez les tenants de cette école, encore une fois. Certains disent que c'est interdit. Car ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mes épouses dans cette vie d'ici-bas sont mes épouses dans l'au-delà. » Et dans l'au-delà, Al-Kitabiyya, la femme des gens du livre, n'entre pas au paradis, n'est-ce pas? Donc si ses épouses de ce bas-monde seront ses épouses de l'au-delà, cela implique forcément que les épouses de ce bas-monde ne sont que des croyantes. Si ce n'est que ce texte, en réalité, n'est pas authentique. Donc, d'autres ont dit que c'était permis pour lui. Et il y a plusieurs avis sur la question. Certains ont répondu par rapport à, Au premier avis, ils ont dit, c'est quand même possible qu'il épouse une des gens du livre, et après elle se convertisse. Et donc, dans ce texte-là, il n'y a pas de contradiction. Mais toutes ces choses-là sont ce qu'on appelle tafri'at, comme a dit le shir, des questions qui découlent d'autres questions, et desquelles il ne découle pas d'actions qui nous sont demandées de mettre en pratique. Donc nous allons les passer rapidement, incha'Allah ta'ala. Nous allons directement passer au troisième point. Al-qism al-thalith, ma ubiha lahu min al-nikah duna ghayri. Ce qui lui est permis dans le mariage, en dehors d'autres que lui, ou à lui seul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, il va nous parler du nombre de ses épouses. Cheikh Abd al-Razzaq va citer tout d'abord la phrase suivante, « Yakfi annahu, sallallahu alayhi wa sallam, ubiha lahu aktharu min arba'i niswa. » Donc, là ici, on va nous citer des nombres de femmes. Et il suffisait ici, ou il suffit ici de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a droit à plus de 4 épouses. Sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il avait 9 épouses vivantes. Et les savants sont unanimes quant à la permission qu'il avait de vivre avec 9 épouses. Puis, les tenants de cette école ont divergé. Avait-il le droit d'avoir plus de femmes en même temps, sallallahu alayhi wa sallam? Et Ibn Kathir dit que la parole juste est de dire que c'était pour lui autorisé. Ils ont pris pour preuve le hadith al-Bukhari selon Anas ibn Malik. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن 11. L'imam al-Bukhari rapporte que Anas dit, le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le tour de ses épouses dans la même heure, que ce soit dans la nuit ou pendant la journée, et elles étaient 11. Donc ici 11 c'est plus que 9. قلت لأنس هل كان يطيق ذلك؟ Celui à qui Anas rapporte le récit va lui dire, est-ce que le prophète pouvait supporter cela physiquement? Donc quand on dit qu'il faisait le tour de ses épouses, il accomplissait avec elles ce que l'homme accomplit avec son épouse, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci pendant la même heure. L'homme lui dit, est-ce qu'il en était capable physiquement? Est-ce qu'il le supportait? قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. Et Anas lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la force physique de 30 hommes. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari a rapporté aussi selon Anas wa fihi 9. وقال Anas تزوج sallallahu alayhi wa sallam 15 امرأة ودخل بثلاث عشرة واجتمع عنده 11 ومات عن 9. Anas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé 15 femmes, a eu des rapports avec 13 d'entre elles, a réuni de son vivant 11. Donc quand on dit 15 femmes, certaines étaient mortes et d'autres sont venues après, mais de son vivant il en a réuni 11. Et quand il est mort, il en avait 9. Sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. On va passer à la question suivante. قالوا وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره وهل كان ينحصر طيب. Donc la question suivante c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait épouser une femme si elle s'offrait à lui, si c'est elle qui se donnait et se proposait ou s'offrait à lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec le terme hiba. Hiba, c'est le don de s'offrir. Et dans ce cas, les règles étaient différentes de celles du mariage. Il n'y avait pas, par exemple, de dot. Il ne devait pas donner de dot. Et ça, c'est une spécificité au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la traduction. Si elle fait don de sa personne au prophète, et si le prophète consent à l'épouser, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Donc ici, le texte est clair. Si une femme vient s'offrir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle dit qu'elle se donne à lui, sallallahu alayhi wa sallam, il peut l'épouser, mais les règles sont différentes. Il n'y a pas de dot, et c'est une spécificité à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a cité deux autres questions, qui sont toutes ces questions encore qui découlent d'autres questions, mais nous allons passer au point suivant directement. Mas'ala wa kana yubahu lahu tazawwuju bi ghayri wali wa la shuhudin ala sahih li hadith Zainab binti Jahsh annaha kanat tafkharu ala azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqul zawwajakahunna ahlukun wa zawwajani Allah fawqa sab'i samawat rawahu al-Bukhari. Donc la question suivante: le prophète avait le droit, sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il a reçu le droit, du moins, d'épouser son tuteur. Alors que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il n'y a aucun mariage valide s'il est fait sans le tuteur de la femme. Mais pourtant, lui-même a épousé son épouse Zainab, radiyallahu anha, son tuteur. Ceci car Allah a dit « Zawwajanakaha ». فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَ زَوَّجَنَاكَهَا. Donc cette femme Zainab était l'épouse de Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Puis ils se sont séparés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui dire: on te l'a donné en mariage. Dès que ce verset a été révélé, il est allé voir Zainab et a eu des rapports avec elle. Et puis Zainab radiyallahu anha se vantait devant ses co-épouses, et elle disait: vous avez été mariés par vos tuteurs, quant à moi c'est Allah qui m'a marié au prophète au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Mas'ala, la question suivante, donc on va essayer d'être un peu plus rapide. La question suivante: هل كان يباح له الزواج في الإحرام على وجهين. Avait-il le droit d'épouser alors qu'il était en sacralisation, donc l'état dans lequel est le pèlerin et pendant lequel certaines choses lui sont interdites, parmi lesquelles demander la main, épouser et avoir des rapports avec son épouse. Est-ce que lui avait le droit, malgré cette interdiction aux musulmans, d'épouser, et donc c'était une spécificité à lui ou non? Il y a deux paroles dans ce sujet. Certains disent que c'était une interdiction, car la généralité du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtibu, c'est-à-dire celui qui est en état de sacralité ne doit épouser, on ne lui donne pas une femme à épouser et n'a pas le droit de venir demander la main d'une femme. Donc ils ont pris ce texte pour dire que c'est interdit. D'autres ont dit que c'est permis et ont cité le hadith d'Ibn Abbas chez Al-Bukhari et Muslim: annahu sallallahu alayhi wa sallam tazawwaja maymunata wa huwa muhrim. Ibn Abbas dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Maymuna alors qu'il était muhrim, en état de sacralité. Et alors on trouve dans le recueil de récits de Muslim que Maymouna elle-même dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée alors qu'elle était halal, c'est-à-dire elle n'était pas en sacralité. Ibn Kathir a dit « Wa sahibul qissa a'lamu biha min al-ghayri, wallahu a'lam » Et l'individu concerné dans le récit est plus savant de sa situation qu'autre. Et ici, Ibn Abbas nous dit que le prophète l'a épousée alors qu'elle était ou qu'il était en ihram. Elle-même nous dit que le prophète l'a épousée alors qu'il n'était pas en ihram. Et la personne qui est concernée est plus à même de savoir sa situation. Donc c'est pour ça que Cheikh Abd al-Razzaq a dit, ce n'était pas une spécificité, le prophète n'a pas épousé en ihram et n'avait pas le droit d'épouser. La question suivante, ils disent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'envie de demander la main d'une femme, s'il avait l'envie de demander la main d'une femme, les compagnons n'avaient pas le droit de demander la main de cette dernière, même si lui ne l'avait pas encore fait. Et pour preuve, ils ont pris l'histoire de Hafsa, la fille de Omar, radiyallahu ta'ala, anha. Omar a proposé sa fille à Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Uthman a refusé. Il l'a proposé à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr a refusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé la main de sa fille. Il l'a épousée. Et plus tard, Abu Bakr va dire, la seule chose qui m'a fait refuser, c'est que je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait la demander. Donc ils ont pris ce récit pour dire que si le prophète désire épouser une femme, les compagnons ne demandent pas la main de cette dernière. La question suivante, était-il, نعم, هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين؟ Était-il dans l'obligation de partager entre ses épouses et ses servantes? Pareil, il y a deux avis. Certains disent que il apparaît l'obligation. Ils disent يظهر الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك. حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن لها. Ils disent que c'est une obligation qu'il avait d'être équitable envers toutes ses épouses, car quand il était malade, il était tellement malade qu'il n'arrivait même pas à se lever, sallallahu alayhi wa sallam, mais il allait quand même faire le tour des maisons de ses épouses. Jusqu'au moment où il était vraiment dans l'incapacité totale de bouger, alors il a demandé l'autorisation à ses épouses d'être soignées chez Aïcha et les épouses ont accepté. Ils prennent ce récit pour dire, ceci montre que c'était une obligation qu'il avait d'être équitable envers ses épouses. Et d'autres ont dit non, ce n'était pas une obligation. Ils ont pris pour preuve la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Turji man tasha'u minhun, wa tu'wi ilayka man tasha'u, turji ay tu'akhir, tu'akhir. » Et donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui donne l'autorisation d'avancer, de faire devancer qui il veut de ses épouses, d'abriter qui il veut et de faire reculer qui il veut de ses épouses. Si on revient au tafsir d'Ibn Kathir ou autre, on verra que certains parmi les savants ont dit qu'ici, c'est une preuve qu'il n'avait pas l'obligation d'être équitable envers ses épouses et que c'était une spécificité pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ibn Kathir lui-même va dire وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ تَزْوِيجَهُ هَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّسَرِّي فِي حَقِّنَا أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَقْسِمُ لَهُنْ sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir va dire que ce sont des sous-questions encore qui elles-mêmes découlent d'une autre question dans laquelle nous n'allons pas entrer. Quoi qu'il en soit, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait quand même et était équitable envers ses épouses tant qu'il le pouvait, sallallahu alayhi wa sallam. La question suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a libéré ou affranchi sa fille et a fait de cet affranchissement sa dot avec laquelle il l'a épousée par la suite. Et le récit est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Anas radiyallahu anhu. Certains ont dit معنى ذلك أنه اعتقها وشرط عليها أن تتزوج به. Certains ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi, mais lui a donné comme condition pour l'affranchir qu'il l'épouse. فوجب عليها الوفاء بشرط. Elle a accepté, elle a donc l'obligation de respecter cette condition. بخلاف غيره. Contrairement à autre. À autrui. Donc c'est une spécificité pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Wa qila ja'ala nafs al-'itq sadaqan. Et d'autres ont dit non, ce n'était pas une condition, mais il l'a épousé et a fait de sa dot son affranchissement. طيب على كل حال, cette question là inshallah ta'ala on va la passer directement, inshallah. Al-qism al-rabi', le quatrième point. Makhtassa bihi min al-fada'il duna ghayrih. Les mérites qu'il a en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Famin dhalika annahu anna azwajahu ummahatun lil-mu'minin. Premièrement, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les mères des croyants. Allah a dit dans le verset: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Selon le sens rapproché, le prophète a plus de droits envers les croyants qu'eux-mêmes en ont, et ses épouses sont leurs mères. Donc, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les mères des croyants. Et le sens de cette maternité, Donc le sens ici, c'est le respect, l'obéissance, l'interdiction de désobéir aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de les respecter, de leur porter la grande considération. Mais ce n'est pas une interdiction d'épouser leur fille, car leur fille, on pourrait comprendre que comme les épouses du prophète sont les mères des croyants, les filles des épouses du prophète sont les sœurs des croyants, donc il est interdit aux croyants de les épouser. Non, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et on reprend la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.